À Bukavu sur 95,3.
Au sud Kivu, plusieurs jugements ont été rendus par les instances judiciaires sur de nombreux cas de viol. Cependant, ces décisions en faveur des victimes de viol restent toujours sans exécution, surtout pour leur indemnisation. Ce constat a été fait récemment par les activistes des droits de l'homme, notamment ceux de la Synergie provinciale de lutte contre les violences sexuelles au sud Kivu. Nous en parlons aujourd'hui avec notre consoeur Delphi Namuto. Delphi, bonjour.
Bonjour Jody, bonjour à tous les auditeurs.
Alors, plusieurs dossiers de viol ont déjà été jugés par les instances judiciaires, cependant il n'y a pas eu d'issue, c'est-à-dire pas d'exécution du jugement.
Oui, et pour les activistes des droits de l'homme, effectivement, plusieurs dossiers ont été au niveau de la justice ici chez nous, n'ont pas eu des réponses satisfaisantes comme eux, ils s'y attendaient, quoi. Alors, l'année dernière, par exemple, sur les 33 cas de viol qui ont été introduits à la justice par la Synergie provinciale de lutte contre les violences sexuelles pour le Sud Kivu, en tout cas, aucun, selon eux, n'a été indemnisé par rapport à cette question de préjudice ou dommages subis par les victimes. Et donc, ils estiment qu'il ne suffit pas seulement de rendre des décisions de justice, encore faut-il les exécuter. Cette Synergie de lutte contre les violences sexuelles va même plus loin en dénonçant cette attitude qu'ils qualifient d'irresponsabilité de l'État congolais. Et d'une manière où, donc, ils disent que c'est une autre forme de violence faite à la femme. Alors, on peut écouter les propos du président de ce réseau lors de son point d'évaluation de l'année 2008. Il s'appelle Ngongo Gilbert.
De tous les dossiers qui ont été traités au niveau de la justice, aucun dossier n'a respecté les délais légaux prévus par la loi. La Synergie provinciale ayant sur les 33 dossiers, les jugements ont été rendus bien sûr que oui, mais l'application de ces jugements-là, c'est un autre problème. Il ne suffit pas tout simplement de rendre le jugement sans pour pouvoir exécuter ces jugements-là. Quel jugement n'a été exécuté conformément à la loi? Et par exemple, l'État congolais a été condamné ensemble avec les auteurs, mais aucune victime n'a été indemnisés dans la province du Sud Kivu.
Donc vous déplorez des responsabilités de l'État?
Ça c'est vraiment grave vis-à-vis de l'État congolais, et cette année nous sommes dit qu'il faut aller vers l'État congolais pour faire cesser cette habitude-là, parce que c'est aussi une autre forme de violence faite à la femme.
Voilà, vous êtes victime de violences sexuelles à Bukavu ou ailleurs au Kivu. N'hésitez pas de nous appeler pour témoigner au 081-890-63-94. Vous pouvez également nous envoyer vos SMS au 081-070-25. Nous poursuivons cet entretien avec Delphi. Nous avons appris que Maître Grégoire Kazadi est l'un des avocats à avoir suivi une centaine de dossiers sur le viol en province et que, bien entendu, vous avez eu l'occasion d'échanger avec lui sur la question. Comment analyse-t-il cette situation?
Et tout à fait. L'avocat en question est intervenu, en tout cas, dans plusieurs procès, comme tu viens de le dire là jeudi, pour défendre plus les parties victimes au viol. Et Maître Grégoire déplore aussi l'inexécution des peines prononcées pour certains cas par les personnes condamnées, mais aussi plusieurs autres cas où l'État congolais a été condamné solidairement avec les auteurs de crimes au paiement des amendes pour les préjudices qu'occasionne cette infraction de viol. On peut l'écouter également.
Un dossier a été jugé par le tribunal militaire de garnison le 21 juin 2007 et a condamné solidairement l'État congolais et le prévenu à 10 000 dollars qu'on devait allouer à une victime qui avait été violée à Calais. Et jusqu'à ce jour, nonobstant la signification de la décision, l'État congolais ne s'est jamais exécuté. Alors que le gouvernorat de province du Sud Kivu a reçu signification du jugement. Il y a eu même des plaidoyers dans ce cas par les organisations des droits de l'homme qui sont allés voir l'ancien gouverneur pour lui demander de s'exécuter, et jusqu'à ce jour, il n'y a aucune exécution. Ce n'est pas le seul cas. Il y a un choc parce que nous en avons rencontré. Après avoir été aux audiences, vous savez comment se passaient les audiences du tribunal militaire à l'époque, 2 semaines au soleil devant la maison de la Poste, croyant qu'ils auront les résultats escomptés, ne fût-ce que cette petite indemnisation, et malheureusement, l'indemnisation ne vient pas. C'est la déception, c'est la désolation, c'est le découragement, même le manque de confiance à la justice de notre pays.
c'est la déception, la désolation, le manque de confiance à la justice de notre pays. C'était là le propos de Maître Grégoire par rapport à au manque d'exécution des peines qui... de certaines décisions prises au tribunal par rapport au cas des viols. Alors, Delphi, est-ce que vous avez contacté les autorités judiciaires de la place pour savoir effectivement comment ils réagissent face à cette question d'indemnisation des victimes des viols?
Oui, comme on peut le résumer du côté des autorités judiciaires que nous avons contactées, surtout du domaine de la justice militaire, où cette question d'indemnisation pose plus de problèmes. Hors micro, elles ont évoqué plus les problèmes de procédure et de manque de suivi des cas, et que donc les prévisions législatives font état que pour le dommage et intérêt prononcé lors du jugement, les victimes sont assistées par un conseil constitué généralement des membres des ONG. Et cependant, le constat fait par ces autorités est que ces ONG qui sont censées assister ces victimes semblent les laisser, les abandonner à leur triste sort, sans suivi donc des décisions judiciaires rendues. Et pourtant, cette procédure d'obtention de ces dommages et intérêts est légalement instituée. Et ce qui n'est d'ailleurs plus l'affaire du ministère public, c'est ce qu'ils ont ajouté ces autorités.
Oui, Maître Grégoire a parlé un peu avant de l'impact que cette non-exécution des décisions judiciaires au niveau des victimes. Est-ce que ces affirmations sont ressenties du côté des parties victimes qui ont intenté l'action en justice?
Oui, je dis, nous sommes en fait rendus dans la famille d'une fillette qui a été victime de viol.
Oui.
Mais nous sommes tombés effectivement sur le responsable de la famille qui est un militaire. Et ce dernier a vu sa fillette de 12 ans violée par un autre militaire il y a de cela 2 ans. Mmh. Il nous a alors affirmé avoir intenté une action en justice contre son collègue militaire qui, à la suite du procès, a été condamné. Alors, s'exprimant en lingala, il a montré son découragement, sa déception, et puis cette condamnation de l'auteur du crime au paiement d'une amende de $40,000 américains pour le préjudice causé à sa famille, qu'il n'a jamais reçu. Et dans ses propos, il va un peu plus loin dans ses pensées et jusqu'à soupçonner
les
droits de l'homme.
Merci Namuto, restez en ligne, il est temps de suivre le Flash Info et nous allons poursuivre cet entretien juste après. Il est 11h à Kinshasa, 12h à Bukavu. Flash Info, Belinda Bosuma.
Bonjour, les populations du territoire de Calais, au nord de Bukavu, continuent à se déplacer par petits groupes des localités proches des positions des FDLR pour se réfugier vers d'autres localités plus éloignées qu'elles estiment être plus sécurisées. L'administrateur adjoint de Calais indique que c'est par crainte des menaces et d'éventuelles représailles de la part des FDLR. Par ailleurs, on note un afflux des centaines de civils et de nombreux combattants hutu-rwandais candidats au rapatriement depuis le début de l'opération conjointe des armées congolaises et rwandaises au Nord Kivu. Et puisque nous parlons du Nord Kivu, sachez que 217 combattants hutu-rwandais et leurs dépendants sont dans différents centres de démobilisation de la MONUC dans l'attente de leur rapatriement dans leur pays, le Rwanda. D'après le responsable de DD3R de la MONUC, Bruno Donat, sa section a identifié 60 combattants et 157 dépendants et civils dans ce groupe hier mardi. Ils sont venus de Bunyakiri, Sangé et Uvira au Sud Kivu. D'autres candidats au rapatriement sont venus de Niabiondo, Kiwanja, Walikale, Kanyabayonga au Nord Kivu. Selon le même responsable, du 4 janvier au 3 février, 335 ex-combattants FDLR et leurs dépendants ont été rapatriés dans leur pays. 120 civils rwandais ont été remis au Haut Commissariat pour le réfugiés HCR. Pour M. Bruno Donat, le nombre des combattants et dépendants qui rejoignent le processus DD3R a augmenté depuis le début de cette année. En province orientale, les violents ne s'accordent pas entre le district de la Tchopo et la Fédération des entreprises du Congo, FEC Bafwasinde, territoire situé à 262 km au nord-est de Kisangani. En effet, la FEC Bafwasinde interdit à ses membres détenteurs des boutiques boutiques et magasins de payer les taxes sur les dénominations commerciales auprès des agents percepteurs du district. Tout en brandissant la nomenclature des taxes selon la SEC, cette taxe ne concerne pas ses membres. Et puis dans la province du Bandundu, après la réhabilitation du pont sur la rivière Mobubu, les prêtres de la mission Djuma à 210 km de Bandunduville s'engagent dans la réhabilitation des routes de desserte agricole. Pour y parvenir, ils ont lancé l'opération de réhabilitation des tronçons contre les équipements sportifs. Déjà, plusieurs jeunes villageois, soucieux de créer les équipes de football, se sont lancés dans la réhabilitation des dizaines de kilomètres de routes au jour le jour.
Retrouvez Belinda Bosuma tout à l'heure, à 12h heure de Kinshasa, pour d'autres développements de l'actualité. Nous étions en train de parler du silence sur l'exécution des décisions judiciaires en matière de violences sexuelles. Nous sommes là à Bukavu, au sud Kivu. Nous avons en ligne pour en parler Delphine Namuto. Delphine, vous êtes toujours là?
Oui, exactement, je dis.
Oui, je disais, Maître Grégoire a parlé un peu avant de l'impact de cette non-exécution des décisions judiciaires au niveau des victimes. Est-ce que ces affirmations sont ressenties du côté des parties victimes qui ont intenté l'action en justice?
Oui, je dis, j'étais disant que nous avons eu l'occasion quand même de visiter la famille d'une fillette qui a été victime de viol. Et nous nous sommes rencontrés avec le responsable de la famille qui est un militaire. Et ce dernier a vu sa fillette de 12 ans violée par un autre militaire il y a de cela 2 ans. Alors lui, il nous a affirmé avoir intenté une action en justice contre son collègue militaire qui, à la suite de ce procès, avait été condamné. Alors s'exprimant en Lingala, il a montré son découragement et sa déception depuis cette condamnation par l'auteur du crime au paiement d'une amende de 40 000 dollars américains pour le préjudice causé à sa famille, amende qu'il n'a jamais reçue jusqu'à ce jour. Et dans ses propos, il va même loin dans ses pensées jusqu'à soupçonner les ONG des droits de l'homme qu'il a vu l'assister lors des procès, à savoir, donc il pense qu'ils ont déjà reçu cet argent, mais il refuse de les lui remettre. Cette victime a décidé, à la suite de déceptions, d'amener sa fille vivre loin de chez lui. Pour lui et pour sa femme, c'était donc une façon de calmer leur souffrance. On peut aussi l'écouter.
Bah, violata moi en Angaï dans l'an 2007. Et puis, droit de l'homme et l'obaki que, bah, qu'on peut s'habiller quelque chose pour un problème et à moi, mais, qui s'y cause, tout le monde a solution, mon côté, c'est, bah, condamnant, mon tour, violata moi en Angaï. Et puis, amende, bah, pensez que, bah, ouais, que l'État n'a pas coûté, il a gagné 40 000 dollars. Non, non, tout le monde est là, comme on était, pour qu'un certain droit de l'homme, à soi, bon, moi, en Angaï, en gros, et tout le monde a qu'un côté. N'azali découragé, qu'on a moi, n'azali violé, et puis moi, en a claqué. Katani, donc il vit à moi dans les bébés, donc il va y passer pour l'anglais. Moi, là, on a un zolo ban pour la colère, on a un tindi moi en amboka et papa pour qu'on aille, à que de revendre, on a posé un moni moi dans la montée, mais au bébé. Nazo, c'est un abakonzi, basali sabiso, pour bakoka, copé sangai, ata et loco balakaki pour la copé ça, pour et coquille cosali sa peine en début mon souci, pas si on a un moni. Maman, moi, on a coutumé à un souci, ma tasse pour chaque jour, il faut qu'avant un zolé la pour la moine.
Voilà, merci pour terminer. Vous avez autre élément d'information?
Oui, je voulais juste ajouter une petite précision, c'est que quelques actions sont envisagées par cette synergie provinciale des luttes contre les violences sexuelles du Sud Kivu. Ceci pour essayer de dépasser aussi ce stade important dans la lutte contre la justice pour la lutte pour la justice, allais-je dire, pour des personnes victimes de violences sexuelles et donc lutter contre l'impunité. Voilà, je dis.
Delphine Namuto, merci pour toutes ces informations et à la prochaine.
Merci.
Okapi, fréquence de la paix.
Nous avons en ligne M. Ngongo Jean-Paul. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le responsable de la synergie provinciale de lutte contre les violences sexuelles au sud Kivu. Il y a un problème, c'est que plusieurs jugements ont été rendus par les instances judiciaires sur de nombreux cas de viol. Cependant, ces décisions en faveur des victimes de viol restent toujours sans exécution, et surtout pour leur indemnisation. Alors, à ces jours, quelles sont les actions que vous comptez entreprendre pour que ces décisions soient finalement exécutées?
En fait, l'année 2009, pour la synergie provinciale de lutte contre les violences sexuelles ici au Sud-Kivu, sera une année de bataille et nous allons nous battre en face de l'État congolais pour que l'État congolais assume ses responsabilités.
Oui.
Ses responsabilités vis-à-vis des victimes, car l'État lui-même devrait être l'exemple, le modèle, donc, de la restauration de la dignité de la femme dans notre province.
Oui, mais nous avons suivi quelqu'un parler, de dire que parfois, c'est le manque de suivi de la part des ONG qui ont soutenu ces victimes pendant le procès. Il n'y a pas de suivi, c'est ce qui fait que beaucoup de choses ne marchent pas.
Quel est le sujet que vous voulez encore? Nous avons suivi le procès du début à la fin jusqu'au jugement. Nous sommes allés, les jugements ont été signifiés au gouvernorat des provinces. Nous avons fait même des plaidoyers ensemble avec la Monique et Section Jacques et d'autres partenaires qui nous soutiennent pour que le gouvernorat des provinces puisse s'exécuter. Nous sommes allés plusieurs fois mener demander des audiences auprès de l'ancien gouverneur et rien n'a été fait. Il y a des victimes d'ailleurs qui pensent que les organisations des droits de l'homme se sont déjà accaparées de ces indemnités.
Oui. Oui, c'est le cas par exemple de ces papas, de ces militaires dont la fille de 2 ans a été violée par son collègue militaire.
Ce n'est qu'un exemple, ce n'est pas seulement le seul papa. Je peux vous confirmer que dans le bureau de la voix de San Juan Liberté, chaque semaine, il y a au moins 2 ou 3 victimes qui se présentent pour venir demander où sont passées leurs indemnités. Et nous n'avons pas de réponse à leur donner parce que notre rôle, c'est de faire le plaidoyer auprès de l'État congolais qui a été condamné ensemble avec les hôtels pour que l'État congolais s'exécute. Mais rien ne se fait de la part de l'État congolais.
Et nous avons appris qu'il y a eu au moins 33 cas de viol qui étaient en jugement et puis les décisions, le verdict a été prononcé, mais jusqu'à aujourd'hui, les victimes ne sont pas encore indemnisées.
Effectivement, aucune victime. Il n'y a pas que les 33 cas seulement. Si on parle des 33 cas, ce sont les 33 cas suivis par peut-être une seule organisation de la synergie. Mais je peux vous dire que plusieurs jugements ont été prononcés dans la province du Sud Kivu, une centaine d'ailleurs, même si je ne me trompe pas, de la part de la compilation. Mais aucune victime n'a été indemnisée et c'est regrettable pour nous les efforts que nous sommes en train de mener.
Et qu'est-ce qui serait à la base de cette situation?
C'est le manque de volonté politique, tout simplement. Il n'y a pas de choses. Et si l'autorité ne veut pas s'exécuter, nous n'avons aucun moyen de faire pression pour le moment à l'État congolais, mais nous voulons nous battre pour les plaidoyers.
Et comment comptez-vous vous battre aujourd'hui?
Bon, de toute façon, l'année 2009, nous allons organiser beaucoup d'actions avec des partenaires, et bon, comme par exemple l'Agence africaine de développement qui veut nous soutenir, nous sommes en train d'envisager des réunions de plaidoyer avec les autorités et le gouvernement provincial.
Oui. Alors, ces réunions, vous allez les tenir quand exactement? C'est programmé pour cette semaine ou pour
ce mois? À partir du mois de mars et à partir du mois de la femme, il y aura beaucoup d'actions qui sont envisagées. Nous sommes en train déjà de faire de toutes ces réunions et ça va être continué jusqu'à ce que les victimes obtiennent les gains de cause.
Oui, jusqu'à ce que les victimes obtiennent gain de cause. Mais aujourd'hui, on peut faire. Quel est l'état des lieux de violences sexuelles, par exemple, dans au Sud Kivu?
La situation n'est pas toujours bonne. Et les violences sexuelles, du point de vue chiffre, ça a tendance à diminuer, mais la situation est toujours grave. Plusieurs milliers de victimes restent encore inaccessibles et n'ont pas accès aux soins de santé. Et la justice pose toujours problème. Il y a des complications d'ordre médical et les hôpitaux sont toujours encombrés. Franchement, je dois vous assurer que la situation des violences sexuelles ici qui vous est loin d'être éradiquée sur toutes ses conséquences.
Et maintenant, au niveau de votre synergie, quelles sont les stratégies que vous mettez en place? Qu'est-ce que vous faites concrètement pour que ces cas de violences sexuelles puissent, n'est-ce pas, baisser et que les victimes puissent obtenir des soins ou être indemnisées? Au niveau de la synergie, quelles sont les stratégies concrètement? Qu'est-ce que vous avez mis en place?
Cette année, nous avons dit la première stratégie, c'est le travail au niveau de la base. Le travail au niveau de la base, ensemble avec tous nos partenaires, nous voulons descendre et travailler avec ceux qui soutiennent les victimes au niveau communautaire, au niveau de la communauté, au niveau de la famille. Ça, c'est notre première stratégie. Et notre deuxième stratégie, cette année, ça sera le lobbying au niveau national et international.
Oui, le lobbying auprès au niveau national. Est-ce que au niveau de la synergie, vous avez suffisamment de moyens pour pouvoir faire votre travail?
Les moyens que nous avons toujours mis au niveau de la synergie, et je dois vous rassurer que d'abord c'est la volonté de faire. Mais à part notre volonté, nous avons des partenaires avec qui nous sommes en train de travailler. Je vous ai dit que pour l'année 2009, nous comptons beaucoup sur l'Agence africaine de développement, qui est un partenaire qui a aidé à commencer avec nous un nouveau programme, une nouvelle façon de travailler au niveau de la province du Sud-Kivu.
Voilà, donc nous espérons que tout va bien se passer, vous allez bien mener votre plaidoyer. Voilà, Monsieur Ngongo Jean-Paul, nous rappelons que vous êtes le responsable de la synergie provinciale de lutte contre les violences sexuelles au Sud Kivu. Nous vous disons merci d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission. On reviendra prochainement pour voir comment votre plaidoyer évolue et s'il y a des retombées ou des feedbacks. Pour l'instant, nous vous disons merci et à la prochaine.
Merci beaucoup, merci Pierre.